Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez entendu ce nom de cet personnage dans la Bible. Il s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth. Et aujourd'hui, étant le premier dimanche du mois, nous participerons à la table du Seigneur, qui est le symbole de l'amour de Dieu, de sa grâce et de la miséricorde de Dieu envers nous. Cette table symbolise la mort du Seigneur Jésus-Christ à notre place sur la croix du calvaire, sa mort au nom de tous les péchés du monde entier, en signe de reconnaissance de sa grâce dans notre vie. Nous nous réunissons régulièrement autour de cette table pour communier avec lui et ses enfants. Mes chers frères et sœurs, comment considérons-nous cette table du Seigneur? Quelle est l'attitude de nos cœurs alors que nous sommes invités à nous asseoir à table et à participer à cette célébration, à cette fête? Réalisons-nous que nous sommes accueillis à la table du roi, le roi des rois et des seigneurs des seigneurs. Sommes-nous conscients de notre humble état, de notre indignité? Avons-nous oublié que nous étions autrefois ses ennemis et enfants des ténèbres et qu'il n'y a rien de bon en nous? Tout cela à cause de ce qu'il a fait pour nous au calvaire sur le monde du Golgotha. Dans ce contexte, nous allons nous retrouver dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, pour lire une belle histoire qui reflète notre histoire. Ce passage de l'Ancien Testament n'a pas spécifiquement quelque chose à voir avec la table du Seigneur, bien sûr, mais nous trouvons de merveilleux parallèles du repas du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui. La Bible est le seul livre authentique que nous puissions lire pour connaître Dieu, alors que nous pouvons lire beaucoup de livres pour connaître beaucoup de choses et pour améliorer notre connaissance de ce monde, notre connaissance générale. La Bible est le seul livre qui montre la vie de son lecteur en toute vérité et en toute honnêteté. Ce passage nous parle d'un chapitre de la vie du roi David. De temps en temps, nous tombons sur une histoire d'une gentillesse extraordinaire qui nous arrête dans notre élan. On dit qu'un acte de gentillesse n'est jamais oublié. Je me souviens encore des petits actes de gentillesse que les gens m'ont montré dans ma vie. Même ici, je suis sûr qu'ils ont oublié ce qu'ils ont fait pour moi. Ils n'y ont peut-être même pas beaucoup pensé de leur acte à cette époque, mais j'en garde un bon souvenir. De simples actes de gentillesse sont une force puissante pour le bien dans ce monde. Et si cela est vrai, même avec la petite gentillesse, combien plus avec les gentillesses extraordinaires que nous expérimentons dans la vie. Notre passage des Écritures d'aujourd'hui raconte l'histoire d'une de ses bontés extraordinaires. C'est l'histoire d'un roi puissant qui a tendu la main et a fait preuve d'une gentillesse particulière envers un jeune homme qui n'avait pas mérité de cette bonté. En fait, la bonté du roi l'a totalement surpris. C'est une histoire qui nous enseigne quelques leçons importantes sur le pouvoir de la bonté et nous rappelle la grande bonté de Dieu envers nous et comment cela devrait avoir un impact sur nos vies. Je vous prie de tourner avec moi dans le deuxième chapitre du prophète Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Nous allons lire ce petit chapitre. Il n'y a que 13 versets. 2 Samuel, chapitre 9. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'est-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Machir, fils d'Amniel, à Lodébar. » Verset 5, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Machir, fils d'Amniel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth. » Et elle répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Et se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne aux fils de ton père, toi, tes fils et tes serviteurs. Je reprends le verset 9. Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Et je donne aux fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. » Verset 11, il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tout ce qui demeurait dans la maison de Siba était serviteur de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de deux pieds. Je pense que une belle histoire quand nous lisons déjà. C'est une belle image de la grâce divine. Nous avons beaucoup chanté de la grâce divine. Grâce de Dieu ce matin. Grâce immense. Surtout quand vous vous souvenez de traitements méchants et injustes que David a subi de la part du Saül. Et Mephibosheth, c'est le petit-fils du roi Saül. Et David l'a fait avec l'alliance que David avait précédemment fait avec Jonathan, le père de ce jeune homme, Mephibosheth, qu'il prendrait soin de sa famille, dont l'histoire, dans son contexte, est aussi sur la loyauté du roi David. Pourtant, vous pouvez voir tous les aspects de la grâce. Nous voyons l'initiative souveraine de la part de David. Personne n'a conseillé David de faire ce qu'il a fait. La recherche de plus démunis, il n'a pas recherché de riches, mais il a recherché le fils de son ennemi Saül, le plus démuni. Il n'avait aucun pouvoir, cet homme. Il était en exil presque dans un autre pays, dans un pays étranger. Et on voit le couvrir de miséricorde, d'amour et de faveur imméritée. Et nous voyons qu'il protège et il prend soin de lui. Et tout en exigeant un certain aspect de responsabilité personnelle. Et regardez le verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Remarquez l'initiative de David dans la situation. Personne ne lui suggère cette ligne de conduite. Il a pris sur lui de chercher un parent vivant dans la maison de Saül envers qui il pourrait faire preuve de sa bonté. C'était l'idée de David et il a pris l'initiative. Remarquez aussi à qui David veut faire preuve de bonté. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? David ne sait même pas s'il reste quelqu'un à ce stade. La personne envers qu'il veut faire preuve de la bonté, n'a certainement rien fait pour David. David ne sait même pas si cette personne existe. C'est pourquoi il demande à son serviteur, reste-t-il encore quelqu'un? Parce que le coutume de ce temps, dans la guerre, quand le roi est tué, tout ce qui appartenait à ce roi, il était exterminé aussi, de peur que quelqu'un vienne pour prendre le trône. Maintenant, Saül avait plusieurs fils. Ce n'est pas uniquement Jonathan. Trois de ses fils, Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, sont tous morts au combat avec lui, avec Saül. Tous le même jour. Saül avait un autre fils nommé Ish-Boshet, qui ressemble au nom de Mephibosheth, qui ne les a apparemment pas rejoints dans la bataille ce jour-là. En fait, après la mort de Saül et après que David a été roi sur Juda, l'ancien commandant de Saül, Abner, a pris Ish-Boshet, il a fait roi d'Israël. Cela a entraîné une guerre entre la maison de David et la maison de Saül pendant de nombreuses années. Ish-Boshet a finalement été tué aussi contre la volonté de David et David est finalement devenu roi sur tout l'Israël. Ça, c'est l'histoire. Quand nous lisons dans le livre de Samuel, on pourra voir cette histoire, comment c'est passé vraiment. Et maintenant que son royaume est fermement établi, il y a la paix dans le pays, David demande s'il reste quelqu'un de la maison de Saül envers qui il peut montrer de la bonté. C'est remarquable en soi. Même s'il restait quelqu'un de la maison de Saül, pourquoi David prendrait-il la peine de lui montrer de bonté? Saül était l'ennemi juré de David. Il avait essayé de tuer David encore et encore. Le fils de Saül, Ish-Boshet, avait déclaré la guerre à David. Tous les parents vivants de Saül pouvaient encore potentiellement prétendre au trône. La plupart de nouveaux rois tueraient tous les parents suivants de l'ancien roi juste pour assurer leur propre trône. Alors pourquoi David veut-il faire preuve de sa bonté envers quelqu'un qui reste de la maison de Saül? La réponse se trouve à la fin de verset 1, où David dit « Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. » Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Et la deuxième partie de ce verset, c'est « Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. » David et Jonathan avaient une amitié spéciale, l'un envers l'autre. Et la parole nous dit que David et Jonathan, ils aimaient plus que leur âme. Cela en soi était remarquable car Jonathan était le prochain dans la lignée pour être roi, le fils de Saül. Et pourtant, il savait que Dieu avait appelé David à être roi à sa place. Et Jonathan, il n'a jamais essayé d'usurper la place de David. Pourtant, au lieu d'essayer de tuer David comme son père Saül, Jonathan a conclu une alliance de bonté avec David. En 1 Samuel chapitre 20, versets 14 à 17, je vais lire pour vous cette alliance qu'ils ont faite. Si je dois vivre encore, veuillez user envers moi de la bonté de l'Éternel, dit Jonathan. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Mais Jonathan savait que Dieu donnera le trône à David. Et tous ses ennemis, inclus son père et peut-être lui-même, seront retranchés. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. C'était l'amour de Jonathan pour David et l'alliance de Jonathan avec David. Jonathan a accepté de montrer de la bonté, de David, bonté à David, et il a demandé à David de lui montrer de la bonté en retour. Et pas seulement envers lui, mais aussi envers sa famille et ses descendants pour toujours. Maintenant que David est roi et en sécurité sur son trône, il se souvient de la bonté que Jonathan lui avait montrée et de l'alliance qu'il avait faite ensemble. Et donc, c'est pour l'amour de Jonathan qu'il recherche cette personne dans la maison de Saül afin de lui montrer du bonté. Mais bien souvent que les hommes, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu, après ils l'oublient, n'est-ce pas? Nous souvenons de l'histoire de Joseph, quand il était dans la prison, il demande, mais quand le roi il te prendra, souviens de moi. Mais lui, il l'a oublié convenablement. Et c'est le cas de nous tous. Quand nous avons la table du Seigneur devant nous, le Seigneur il a fait une grande chose, il nous a sauvés. Mais combien souvent nous oublions la bonté de Dieu. Je trouve cela remarquable. David venait de devenir roi, souverain de tout Israël et de Juda. Pour la plupart des gens, lorsqu'il accède au pouvoir, à la richesse, ou à la célébrité, il devient très facile pour eux d'oublier les autres. David démontre ici une application correcte du principe biblique de l'intendance. Dieu attend et exige que nous utilisions notre pouvoir, notre richesse et notre influence pour servir les autres, pas pour nous servir nous-mêmes. Rappelez-vous, David était un homme selon le cœur de Dieu. Ainsi, nous voyons un reflet de la bonté de Dieu et du respect de l'alliance de Dieu dans l'action de David. Et premièrement, nous voyons que David apprend l'existence de Mephibosheth par Siba. Et bien souvent, nous voulons connaître quelque chose. Nous avons cette tendance de connaître, avoir la connaissance de beaucoup de choses. Mais après, la question, c'est qu'est-ce que nous faisons avec notre connaissance? Même dans la parole de Dieu, nous voulons connaître la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons avec notre connaissance? Est-ce que nous appliquons? Est-ce que nous voulons faire quelque chose avec le commandement de Dieu? Est-ce que nous voulons obéir à sa volonté? Regardez le verset 2 dans le chapitre que nous avons. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Machir, fils d'Amniel à Lodébar. » Et qui est ce Siba? Siba est un serviteur de la maison de Saül, bien qu'ailleurs il soit aussi appelé l'intendant de la maison de Saül. Si vous, la référence est 2 Samuel 19, 17, si vous voulez noter. Cela semble indiquer que Siba était plus qu'un simple des serviteurs. Il était responsable de toute la maison et prenait donc probablement les décisions quotidiennes concernant les ressources et les richesses qui appartenaient encore à la famille de Saül. Donc il était chargé de la richesse de tout ce qui appartenait à la famille de Saül. Donc c'est un homme avec pas mal de pouvoir et d'influence au sein de la famille de Saül. Et il est donc naturel pour David d'appeler. Siba apparaît devant David et il présente très sagement à David comme « Voici ton serviteur ». Il est difficile de dire ici si Siba est sincère devant David ou simplement respectueux. Mais nous apprenons plus tard dans la Bible que Tziba n'est pas un homme honorable. Il ne se souciait vraiment pas du tout de David, mais ne cherche que son propre avantage. Il doit jouer un jeu plus tard. Ziba est très opportuniste. Plus tard, il calomniera faussement Mephibosheth à David afin de renforcer sa propre position. Donc je suppose que Ziba est juste respectueux ici. Il n'est probablement pas sincère. David pose à Ziba la même question qu'il a posée plus tôt. Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Remarquez comment David est centré sur Dieu dans sa demande. Sa pensée, il a la même pensée comme Dieu. Il peut avoir. Il ne veut pas seulement faire preuve de sa bonté, il veut montrer la bonté de Dieu. Ces paroles reflètent une compréhension que toutes les bontés que nous avons reçues viennent de Dieu. Si David il est sur le trône aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est à cause de la bonté de Dieu. Tous les psaumes que David a chantés est témoin de la bonté et la grâce de Dieu. Ces paroles reflètent une compréhension que toutes les bontés que nous avons reçues viennent de Dieu et que nous avons donc l'obligation de transmettre cette bonté aux autres. Il reflète également les paroles de Jonathan à David quand ils ont fait leur alliance d'amitié. En réponse, Ziba parle de Mephibosheth à David. Imaginez comment le cœur de David a dû bondir de joie quand Ziba dit « Il y a encore un fils de Jonathan, le fils de son ami. » David cherchait quelqu'un de la maison de Saül, mais quelle merveilleuse surprise d'apprendre qu'un fils de Jonathan était encore vivant. Et certainement David l'a présumé que tout le monde était tué. Mais quand Ziba dit « Il y a encore un fils de Jonathan, Mephibosheth. » Ziba poursuit en disant à David que ce fils de Jonathan est estropié de deux pieds. Nous lisions plus tôt dans la Bible que c'était le résultat d'un accident qui a lieu le jour de mort de Jonathan. Nous avons vu que Saül, ses deux autres fils, ils étaient tués le même jour dans la bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? 2 Samuel 4, 5, je vais lire pour vous. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jézréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Donc, dès qu'ils ont entendu que le roi Saül et ses deux fils étaient tués, les deux autres princes étaient tués, la nourrice, elle prit le petit, il avait 5 ans. Elle a fui dans cette précipitation, il tombe, il casse les deux pieds. Quand la nourrice de Mephibosheth a appris la nouvelle de la mort de Saül et Jonathan au combat, elle a eu peur et elle a laissé tomber Mephibosheth dans sa hâte d'échapper. Il n'avait que 5 ans à l'époque. Ainsi, Mephibosheth était boiteux de deux pieds, depuis qu'il était un jeune garçon, depuis qu'il avait 5 ans. Cela l'aurait mis dans une situation très avantageuse toute sa vie. Il n'était pas capable de subvenir à ses besoins. Et les estropiés ou le botteux n'étaient pas toujours bien traités par la société. Nous vivons dans une société aujourd'hui où on a le moyen pour prendre soin à des personnes handicapées. Mais imaginez, c'est 1000 ans, plus que 1000 ans, avant l'avènement de Jésus-Christ, avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle était cette société? On n'avait pas cet avantage social que nous avons ici en France. En fait, quand David demande à Ziba où est ce fils de Jonathan, nous apprenons qu'il ne reste même pas chez Saül, pas dans la maison de Saül. En tant que en tant qu'intendant de la maison de Saül, Siba aurait dû pouvoir aux soins de Mephibosheth, mais il n'a pas fait. Au lieu de cela, nous apprenons que Mephibosheth est à la maison de Makir, un autre fils d'Amniel, dans un lieu qui s'appelle Lodébar. Plus tard, ce même Makir, fils d'Amniel, aidera David et ses hommes avec de la nourriture et la provision lorsque David est en fuite de son propre fils Absalom. 2 Samuel 17, chapitre 17, 27 à 29. Mais pour l'instant, Amniel s'occupe de Mephibosheth dans sa maison de Lodébar. C'est intéressant de connaître le sens des mots, des noms de villes ou personnes qu'on trouve dans la parole. Hein. Lodébar était une ville, l'est de Jourdain. Le nom de Lodébar ne signifie sans pâturage. Il n'y avait pas de pâturage dans cette ville. Il n'y avait pas de champs, il n'y avait pas de pâturage. Donc on peut deviner qu'il était sec, un pays aride. Ainsi, Mephibosheth vit littéralement dans un endroit de famine. Il n'y avait pas beaucoup de moyens pour le survivre. Au lieu d'être pris en charge par la famille de Saül, il est dans la maison d'un étranger dans une ville appelée Lodébar, c'est-à-dire sans un pâturage. Il ne voit nulle part et sans rien à son nom. Le nom de Mephibosheth, il est aussi connu comme Meribal, on peut trouver dans le livre de Chroniques. Et son nom, Mephibosheth, ça veut dire celui qui éparpille la honte, celui qui donne la honte. Et sans endroit où se sentir chez lui, Mephibosheth ne le sait pas encore, mais les choses sont sur le point de changer dans sa vie. Deuxièmement, nous voyons que David exerce sa bonté envers Mephibosheth. Dans le chapitre de le passage que nous avons, versets 5 à 8, nous allons lire. Versets 5 à 8. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à Lodébar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres du Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Nous devrions un peu placer dans notre cœur le roi David comme l'image de Dieu lui-même. Et nous, dans la place de Mephibosheth, comment nous sommes venus vers le Seigneur, dans quel état nous étions, et comment le Seigneur nous a accueillis. David amène Mephibosheth de Lodébar à Jérusalem. D'abord, David amène Mephibosheth de Lodébar à Jérusalem. Le roi David le fit donc venir de Lodébar, de la maison de Makir, fils d'Amniel. Quand Mephibosheth, fils de Jonathan, le fils de Saül, vint à David et se prosterna pour lui rendre l'honneur, David dit, Mephibosheth, il dit, voici ton serviteur. Et ainsi, David amène Mephibosheth de Lodébar, la ville sans un pâturage, et pas seulement quelque part, mais à Jérusalem, la cité royale, la cité de Dieu. Mephibosheth apparaît devant le roi. David prononce son nom. Le nom de Mephibosheth signifie littéralement celui qui disperse la honte. Pas le nom le plus élogieux au monde. Pauvre Mephibosheth, il a un nom honteux et un passé pitoyable. Mais David, il l'appelle par son nom. Il l'a connu par son nom. Comme Dieu nous a appelés par notre propre nom. Il a connu notre nom. Nous étions dans un pays aride, sans rien. à Lodébar, dans le monde. Mais Dieu nous a amenés dans son cité, en cité de Jérusalem, la ville de la cité royale, la ville de Dieu. Il est devenu orphelin de père, Mephibosheth, et infirme le même jour. Il a apparemment été ostracisé par sa propre famille. Son grand-père, Saül, a péché contre le Seigneur et a perdu le trône royal qui aurait même pu appartenir à Mephibosheth un jour. Il a tout perdu. Et maintenant, il est soudainement convoqué devant David, le nouveau roi d'Israël. Mais quand il était convoqué par le roi David, certainement Mephibosheth, il a pensé que c'est le dernier jour de l'existence de ma vie sur la terre. Et certainement David, il va me tuer aussi. Parce que ça, c'était la coutume d'exterminer tout. Et ici, nous voyons que David accomplit son alliance avec Jonathan. Regardez le verset 7. David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. » Dieu a nous fait du bien à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et puis David accomplit son alliance avec Jonathan. Maintenant, à ce stade, Mephibosheth ne connaît toujours pas les intentions de David. Pour autant qu'il le sache, peut-être que David veut le tuer comme d'autres rois auraient pu le faire. Oui, il est un fils de Jonathan, mais il est aussi le petit-fils de Saül. Mettons un peu dans la place de David. David, il était pourchassé par Saül pendant des années. Oui, il était un fils de Jonathan, mais il était aussi le petit-fils de Saül, et donc un héritier potentiel du trône. Ce n'est probablement pas la chose la plus sûre lorsque nous comparaisons devant un nouveau roi. J'imagine que Mephibosheth est mort de peur maintenant. David semble le sentir et lui dit immédiatement des mots pour le rassurer. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. David dit à Mephibosheth qu'il accomplira son alliance de bonté envers Jonathan de deux manières. Tout d'abord, il restituera à Mephibosheth les terres qui appartenaient à Saül. Maintenant, cela ne signifie pas que David lui rendra tout le pays d'Israël. Le mot ici est littéralement « champ » quand il dit « terre ». C'est le champ ou des champs. En d'autres termes, David restituera à Mephibosheth toutes les terres agricoles qui appartenaient à Saül, pas toutes les terres sur lesquelles Saül a régné en tant que roi. Mais c'est un cadeau merveilleux en soi. La terre était une importance vitale à cette époque et la ressource la plus importante pour la sécurité financière. Et puis, deuxièmement, David dit à Mephibosheth, « Tu mangeras toujours à ma table. » C'est une bonté incroyable. C'est une bonté incroyable. Très peu de gens ont mangé à la table du roi. Cela était généralement réservé à la famille du roi, à quelques proches associés. Si un président, notre président ou premier ministre d'un autre pays, il visite la France, ce n'est pas tout le monde qui est convoqué pour le banquet. Pas tout le monde est invité. Les personnes sont choisies. Les boiteux ou les estropiés auraient certainement été exclus d'une telle opportunité. Mais manger une fois à la table du roi serait un privilège incroyable. Pensez si vous étiez invité à vous asseoir et manger avec le président dans son palais d'Élysée. Comment ce sera? Vous feriez probablement prendre votre photo, l'encadrer et mettre sur le mur et en parler pour le reste de votre vie. Mais David ne dit pas, Méphibosheth, tu mangeras à ma table ce soir ou la semaine prochaine. Mais il dit, tu mangeras toujours à ma table. C'est un acte de bonté incroyable. David n'a jamais oublié son humble état avant de devenir roi d'Israël, n'est-ce pas? Mais on peut comprendre comment la façon qu'il agit, la façon qu'il vit, il n'a jamais oublié comment il était avant. Avant que Dieu mis sur le trône d'Israël. Quand David, dans le verset 8, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? La parole de Méphibosheth. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Vous voyez, David n'a jamais oublié ses humbles débuts. David ne s'est jamais remis de la grâce que Dieu lui avait accordée dans sa vie. Jeune berger, il avait été amené dans la maison de Saül. Lui-même avait mangé à la table du roi quand il était un jeune homme. Vous vous souvenez? Après la victoire sur Goliath, il était amené dans le palais de Saül. Et David, en tant que jeune garçon, il a mangé à la table du roi. Quand David est devenu roi pour la première fois, il a versé son cœur dans la prière à Dieu. Je lis de 2 Samuel, chapitre 7, 18 à 22. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Est-ce qu'on a cette même attitude quand nous entrons dans la maison du Seigneur? Est-ce que nous avons la même attitude quand nous entrons dans la présence du Seigneur? Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. David n'a jamais pris la bonté de Dieu envers lui pour acquise. Et il était donc capable de montrer la bonté de Dieu envers des autres. David sait aussi que Méphibosheth n'est pas en faute ici. À bien des égards, Méphibosheth souffre pour le péché de son grand-père, Saül. Sans faute de sa part, Méphibosheth avait été exclu de la table du roi. David lui rend maintenant cela. C'est une bonté extraordinaire. Remarquez l'humble réponse de Méphibosheth au verset 8. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» S'identifier comme un chien, c'est donc attirer l'attention sur sa condition misérable en tant que créature sans importance. Un chien mort, quand on dit un chien, peut-être le chien n'est pas la même place comme il a aujourd'hui dans notre société, comme à l'époque. Aujourd'hui, on chérit les chiens plus que parfois même les humains. On fait tout pour les chiens. Il y a même une garderie pour les chiens pendant les vacances, parfois 5 étoiles. Mais ce n'était pas le cas pour les chiens de cette époque, en Israël. Un chien mort, en plus, est une vie qui ne vaut rien. Regardez ce que David dit à Saül quand le dernier le poursuit. C'est la parole de David à Saül. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? David lui-même, il a mis ces paroles. Il dit à Saül. Un chien mort était une expression hébraïque pour désigner une ordure embarrassante. C'est ainsi que Méphibosheth se voyait. La compassion et la bonté coulaient du trône, mais Méphibosheth ne pouvait pas l'accepter. Pourquoi? Parce que, bien aimé, comme beaucoup d'entre nous, il n'avait pas le fait clair. Méphibosheth ne savait que ce que lui avaient dit des gens qui perpétuaient le point de vue de Saül. Méphibosheth avait vécu dans l'ignorance totale de l'alliance que son père Jonathan avait conclu pour lui une alliance faite pour une occasion comme celle-ci. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la coupe avec le jus de raisin. On appelle la coupe de la nouvelle alliance. Souvenez-vous de l'alliance que David a fait avec Jonathan. Il a tenu la promesse, tenu l'alliance. Sur quelle base nous pouvons, en tant que chien mort, on peut entrer dans la présence du roi des rois? Une fois de plus, Mephibosheth s'incline devant David. Il est littéralement stupéfait par la bonté de David. Qui ou quoi suis-je pour que tu me regardes? Il ne revendique pas les privilèges que David lui accorde comme un droit. Au contraire, il la reçoit comme une pure grâce, non méritée et complètement imméritée. Grandissant dans la grâce de Dieu, Paul se voyait comme le plus petit de tous les apôtres et le premier des pécheurs. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ. Et encore, en 1 Timothée, Paul dit, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » On peut placer notre « moi » dans beaucoup d'autres choses. Mais nous sommes chacun, nous sommes le premier parmi les pécheurs. Nous sommes tous commis les choses atroces contre notre Dieu Seigneur. Plus nous aurons de grâce, moins que nous penserons à nous-mêmes. De plus en plus que nous voyons la grâce de Dieu, on peut penser que moins de nous-mêmes. Car la grâce, comme la lumière, révèle notre impureté, notre état pécheur. Voyez ce que Isaïe, il a pleuré, il a lamenté en Isaïe 6. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais parfois quand nous pensons à quelque chose de nous-mêmes, nous ne voyons pas Dieu. Nous ne voyons pas la grâce de Dieu. Nous ne voyons pas la grandeur de Dieu. Et maintenant, nous voyons que David met son plan à exécution. Nous avons vu comment David se souvenait de la bonté de Jonathan envers lui et comment David avait fait preuve de bonté envers Mephibosheth pour l'amour de Jonathan. Maintenant, David met son plan en action. Souvent, les gens ont de bonnes intentions, mais ils ne font jamais rien à leur sujet. David met son plan à exécution. Regardez les versets 9 à 13. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Donc il avait assez de ressources humaines, non? Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Donc normalement, le fils du roi, il avait droit de manger à la table du roi, avec le roi, mais pas un étranger. Voire pire que pas un fils d'un ennemi, pas un boiteux que tout le monde peut mépriser. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils, Micha ou Miché, et tout ce qui demeurait dans la maison de Siba était serviteur de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de deux pieds. David convoqua Siba et lui dit comment il vient de donner Mephibosheth tout ce qui appartenait à Saül et à sa famille. Maintenant, ce n'est probablement pas une bonne nouvelle pour Siba. En tant qu'intendant de Saül, Siba était celui qui avait le plein contrôle des biens de Saül. Maintenant, tout va à Mephibosheth. Non seulement cela, mais David dit aussi à Siba son nouveau travail. Siba, ses fils et ses serviteurs vont maintenant cultiver la terre qui a été restituée à Mephibosheth et apporter les récoltes pour bénéfice de Mephibosheth. Ce ne serait pas seulement pour la nourriture, mais aussi pour le revenu, car Mephibosheth mangera de toute façon à la table du roi. Siba avait 15 fils et 20 serviteurs, donc Mephibosheth a soudainement tout l'entourage qui le sert. Celui qui devrait manger le pain que des autres l'ont donné, mais maintenant, il a un entourage qui le sert. Encore une fois, Siba se conforme aux ordres de David, probablement pas sincère, comme on a parlé, du fond du cœur. Il dit à David, « Je ferai tout ce que tu me commanderas de faire. » Pourquoi? Non pas parce qu'il aime David, mais parce que David a le pouvoir et Siba n'a vraiment pas le choix. Et donc Siba et toute sa famille déménagent tous à Jérusalem et deviennent les serviteurs de Mephibosheth. Il est facile de voir comment Siba deviendrait rancunier de ce nouvel arrangement. Siba entendra son heure, cependant, et frappera quand le moment sera venu. On peut lire à ce sujet en 2 Samuel chapitre 16 et 19. C'est un peu comme Haman dans les livres d'Esther. Pendant ce temps, Mephibosheth mangera à la table du roi comme l'un des fils du roi. Dans le dernier verset, nous apprenons que Mephibosheth a aussi un fils, un jeune garçon nommé Mika. Et vous, Miché, la généalogie de Mika est donnée deux fois dans l'Écriture, dans le livre de 1 Chronique. Le nom Miché signifie « qui est comme Yahvé ».« Qui est comme Yahvé ». C'est une grande amélioration par rapport au nom Mephibosheth qui signifie « celui qui répand la honte ». Le père Mephibosheth, il avait un nom qui signifie « il répand la honte ». Mais Miché, qui est comme Yahvé, c'est une grande amélioration par rapport au nom de Mephibosheth. Le verset 13 clôt le chapitre en nous disant que Mephibosheth vivait maintenant à Jérusalem, qu'il mangeait toujours à la table du roi, puis se termine par le rappel qu'il était infirme aux deux pieds. C'est malgré le fait qu'il était infirme de deux pieds, il mangea tous les jours dans la table du roi. Pour conclure, cette histoire de Mephibosheth de l'Ancien Testament est une belle image de la grâce de Dieu dans la vie du chrétien. Comme Mephibosheth, nous sommes aussi boiteux. Nous sommes paralysés par le péché dans les deux pieds à cause de notre chute. Quand Adam a chuté, toute l'humanité a chuté avec Adam. Nous sommes incapables de subvenir à nos besoins et couverts de honte. Nous avons également été exclus de la table du roi. Nous n'avions pas le droit d'être assis avec le roi. Comme Mephibosheth, nous avons aussi été amenés de Lodébar, la ville de sans pâturage, à Jérusalem, la cité de Dieu. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2:12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et tout comme David a étendu la bonté à Mephibosheth, notre Dieu et roi nous a accordé une bonté extraordinaire, une bonté qui est complètement imméritée, la grâce imméritée. Il nous invite toujours de manger à la table du roi. Nous ne sommes pas parfois comme le fils prodigue qui veut dîner avec les cochons. Le Seigneur, il a préparé une table pour nous. Mais parfois, nous avons envie d'aller dîner avec des cochons. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. La parole, elle est très claire. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. En Corinthiens 6, 11. Et encore à Éphésiens 2. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6 à 7. Un jour où nous irons au ciel, où nous mangerons à la table du roi pour toute l'éternité, en attendant, nous avons la table de communion devant nous. Un rappel de la provision de Dieu dans le passé, sa grâce dans le présent, et une anticipation de la gloire à venir au retour de Christ. C'est ça qui signifie la table du Seigneur aujourd'hui, pour un enfant de Dieu. Si vous connaissez Christ comme votre sauveur personnel, et que vous avez obéi à son commandement dans les eaux de baptême, vous êtes invité à manger à la table du roi, même aujourd'hui, alors que nous partageons ensemble le repas du Seigneur. Que le Seigneur fait son œuvre dans nos cœurs, qui nous fait comprendre ce qu'il a fait, faire comprendre sa parole, que nous approchons pas de cette table indignement. Dieu est Dieu, Dieu est saint. Il dit très clairement dans sa parole que « Soyez saints, car je suis saint. » Et donc, personne ne peut approcher Dieu sans la sainteté. Nous adorons un Dieu en esprit et en vérité. Que le Seigneur nous aide. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici nous sommes devant toi, Seigneur, quand comme Adam et Ève qui étaient devant toi, nus et pécheurs. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Tu nous connais tel que nous sommes. Seigneur, merci pour cette image que tu as laissée dans ta parole, dans la vie de roi David et dans la vie de Mephibosheth. Seigneur, nous nous identifions avec cet homme, Mephibosheth. Seigneur, qui nous sommes, Seigneur, puisque tu penses à nous. Seigneur, nous sommes comme des chiens morts, indignes de recevoir ta grâce et de ta miséricorde. Mais tu as usé ta grâce envers nous, Seigneur. Tu as usé ton miséricorde envers nous. Et tu nous as sauvés de mort éternelle. Seigneur, par ta mort et par ta résurrection, tu nous as acquis la vie éternelle pour toujours. Seigneur, merci pour cet amour éternel, avec cet amour éternel que tu nous as aimé. Seigneur, en retour, nous voulons dire que nous t'aimons. Seigneur, de tout notre être, de tout notre cœur, et toute notre intelligence, de toute notre connaissance. Seigneur, accepte-nous, Seigneur, comme tes humbles enfants. Merci pour ce privilège de pouvoir asseoir avec toi à la table pour participer à ce repas royal que tu as préparé d'avance. Merci pour ce que cette table nous symbolise. Merci pour ce symbole, ce pain qui symbolise le corps de Christ qui était brisé pour nous, pour ce jus de raisin qui symbolise le sang de Christ qui était versé à notre égard pour nous sauver. Seigneur, nous te remercions, Père, pour toute ta bonté, ta fidélité dans ton alliance. Merci pour cette nouvelle alliance que tu as faite à notre égard. En ton nom, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.